François Fliponneau, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez d'Haïti. À quelqu'un qui n'aurait pas suivi l'actualité des dernières semaines, qu'avez-vous envie de dire sur ce qui est en train de se jouer là-bas?
Mais la première impression, c'est que toutes les catastrophes s'abattent sur ce peuple, sur ce pays, tout s'accumule. Avant même le tremblement de terre, on sait que c'était un pays en difficulté, mais le tremblement de terre, le choléra, enfin, tout s'abat sur ce pauvre peuple à qui il reste comme richesse son énergie, sa valeur humaine.
Et pas plus. Mais vous êtes là, il y a les associations, il y a, bon, on le sait, on va en parler forcément, les millions de dollars qui ont été donnés, et tout le monde dit non, il y a l'énergie, et là, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est votre sentiment aussi?
C'est un peu le sentiment, bien que je ne peux pas nier les efforts des ONG, et notamment, je suis volontaire d'ATD Quart Monde. C'est évident qu'on essaye d'être au plus proche des plus pauvres sur le terrain, et donc d'apporter un service, d'apporter un lien.
Alors, avec quelles actions pour vous, ATD Quart Monde, à Port-au-Prince et autour?
ATD Quart Monde est en Haïti depuis 30 ans, enfin depuis 1982. Et nous avons, comme partout dans le monde, des actions culturelles, c'est-à-dire des bibliothèques de rue, ce qui permet d'apporter le livre dans la rue, dans la rue, parce que sous le regard des parents, sous le regard des adultes, pas enfermé dans une salle où on ne saurait pas si j'y vais, si j'y vais pas. Et puis, pour les tout-petits, de 0 à 3 ans, on a une opération qui s'appelle Bébé Bienvenue, depuis longtemps. Et puis, pour les 3 à 6 ans, une pré-école. On ne fait pas l'école, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre métier. Par contre, on essaye d'apporter une ouverture auprès des bébés et de leurs parents, toujours en lien avec les parents, bien sûr, et puis des enfants de 3 à 6 ans, pour préparer ceux qui sont le plus éloignés des structures existantes de la possibilité de suivre après un enseignement l'école.
Alors, on va parler des enfants, c'est l'avenir par définition, peut-être encore plus à Haïti qu'ailleurs. On connaît les chiffres, la jeunesse de ce pays. Quand on a 2, 3, 4, 5, 6 ans qu'on a vécu ce tremblement de terre et que peut-être on vit dans la rue ou dans des conditions difficiles, qu'est-ce que vous avez déjà fait, entrepris pour ces plus jeunes dont on parle peut-être moins, mais qui vivent ça, leur première expérience de vie, c'est une catastrophe.
Alors, vous le savez, ATD Quart Monde n'est pas une association de l'urgence, n'est pas une association de la distribution. Mais quand des gens ont faim, il faut se préoccuper qu'ils aient à manger. Si votre voisin crève de faim, il faut lui donner à manger avant de philosopher et de faire des choses plus intellectuelles. Donc nous, en lien avec Action contre la faim, qui ne voulait pas venir à Grande Ravine parce que c'est une zone rouge, parce que c'est dangereux. Donc, ATD Quart Monde, vous le savez, n'est pas une association de distribution, une association d'assistance. Par contre, dans les quartiers les plus reculés, comme Grande Ravine, comme son nom l'indique, sur les hauteurs de Port-au-Prince, une zone très difficile d'accès, les gens sont éloignés de tout et jamais ils ne recevaient le moindre secours.
Donc nous, aussi près de la capitale.
Aussi près de la capitale, parce que c'est une zone dangereuse, c'est vrai, il y a beaucoup de violence. Et donc, Action contre la faim était prêt à faire des distributions, mais avec notre accompagnement, parce qu'on leur avait dit, c'est dangereux, vous allez vous faire voler.
Et vous avez l'expérience.
Et nous, on a l'expérience et on les connaît. Et on sait que quand on arrive à Grande Ravine, il y a des signaux qui disent, c'est ATD, on ne touche pas. Donc, on a pu accompagner Action contre la faim et les gens tout en haut de Grande Ravine pleuraient en disant « Mais c'est la première fois qu'un secours vient jusqu'à nous. » Et les moins de 5 ans ont pu avoir à manger. C'était une goutte d'eau, mais une goutte d'eau indispensable. Ensuite, nous, avec les gens de Grande Ravine, comme d'autres quartiers de Port-au-Prince, on a un accueil des bébés de 0 à 3 ans. On appelle ça « Bébé bienvenue ». Bienvenue aux bébés, ouvrons-leur l'esprit. On a des moyens matériels, des moyens humains qui permettent, comme tous les enfants dans les pays développés, de pouvoir ouvrir l'esprit et devenir intelligent, devenir
ouvert,
lecteur.
Alors eux ont vécu, ont-ils tout compris? Peut-être pas, mais ont vécu et vivent cette catastrophe et ses conséquences. Comment vous les sentez-vous, ces enfants?
Ben, on les sent traumatisés, surtout ceux qui sont sous des bâches, sous les tentes. Parce que l'urgence, c'est ça aussi. C'est plus d'un million de personnes, 1 200 000 personnes qui sont sous des bâches.
Et donc des milliers de petits, de tout petits.
Et de tout petits. Et c'est des conditions vraiment épouvantables. Mais nous, comme si de rien n'était, je dirais, on continue à avoir des animations culturelles, à venir avec des livres, et on voit les enfants fous de joie qui disent « il y a Saint-Jean, il y a François, il y a Nathalie qui arrive, il y a les livres, c'est super ».
Parce que eux, au fond, arrivent à surmonter peut-être ce que certains adultes n'arrivent pas à vivre. C'est-à-dire, au fond, ils ont un rapport direct avec voilà, un plaisir que vous leur donnez à travers le livre, par exemple.
Oui, et même, vous savez, même les adultes arrivent à avoir cette détermination. Quand je leur dis « mais qu'est-ce que c'est qui vous fait tenir alors qu'il y a tant de choses qui pourraient vous écraser ? Qu'est-ce que c'est qui vous fait lever le matin ?» Ils disent d'abord « c'est nos enfants ». Ensuite, c'est Dieu, parce que la plupart ont la foi et bon, il faut respecter ce lien qu'ils ont avec Dieu. Et puis, troisièmement, c'est cet espoir qu'on a chevillé au corps et on se dit « il faut tenir, parce que sinon les autres ne tiendront pas ». Et donc, ils s'encouragent mutuellement comme ça, adultes et enfants, à tenir. Quand il y a eu cette tornade et un arbre est tombé, et il y a un jeune enfant, un jeune adolescent qui est monté sur l'arbre, bras tendus, et qui m'a dit « fais la photo !» De l'air de dire « je suis vivant !»
Quel avenir ? Alors, à court terme, on va dire 3 mois, 6 mois, 1 an et plus, vous voyez, notamment, restons sur les enfants.
Je pense que l'urgence, c'est l'école. Vous savez, le 4 octobre, c'était la rentrée scolaire. On a vu très peu d'uniformes, de tenues qui allaient à l'école, sauf des écoles privées. Les écoles privées sont nombreuses, plus ou moins sérieuses, plus ou moins professionnelles. Mais si l'école publique n'a pas repris ou a très mal repris, ce n'est pas seulement en raison du séisme du 12 janvier. C'est parce que de nombreux instituteurs et professeurs ne sont pas payés depuis 3 ans. Qui accepterait d'avoir 3 ans de retard de salaire ?
Cela veut dire que des milliers d'enfants ne vont plus à l'école depuis très longtemps, en fait.
Des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés. Et quand il y a un effort à faire, moi je pense, de mon modeste point de vue, que c'est sur l'école, sur la reconstruction et sur le travail. C'est désespérant de voir des jeunes qui n'ont pas de travail, nos futurs.
À 6, 7, 8 ans, c'est quoi la journée d'un petit Haïtien aujourd'hui qui ne va pas à l'école ?
Ben le premier travail, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas confondre ça avec le travail des enfants, c'est d'aller chercher de l'eau. Parce que ça, et le choléra, c'est terrible, parce qu'on ne sait plus quelle eau est bonne et quelle eau n'est pas bonne. Et actuellement, les associations distribuent du chlore, essayent de vacciner contre le choléra. Bon, donc la première responsabilité d'un enfant pour aider ses parents, sa famille, c'est d'aller chercher de l'eau. Et quand c'est à Grande Ravine, c'est parfois très loin, tout en bas, et il faut porter le seau vide à l'allée et le remonter plein.
Parce qu'à cet endroit, entre autres, aucun travail de reconstruction ou d'installation, notamment de conduite d'eau jusqu'au robinet, on peut rêver, n'a été fait.
Rien n'a été fait tout en haut. Il y a quelques points d'eau dans les camps de sinistrés. Il faut faire la queue parce que l'eau, c'est indispensable pour se laver. Il faut voir avec quelle attention tout le monde se lave, sans se déshabiller complètement par intimité, mais quand même, se lave très bien.
Mais tout cela se fait dans l'acceptation de la situation ou vous sentez voilà, la colère vraiment arriver ?
Alors, la colère, elle est à deux vitesses. Il y a la colère des gens pour lesquels ça va créer un dynamisme formidable, de dire il faut rester debout, il faut rester courageux. Et puis, il y a la colère plus discutable de ceux qui tombent dans la violence et qui disent de toute manière, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'État, donc à nous de faire la loi, à nous de manger les autres, sinon on sera mangé. Et il y a une grande violence. Il y a actuellement, à Grande Ravine, il y a des morts, peut-être pas tous les jours, mais chaque semaine.
Pas d'administration ou peu d'administration sur place, haïtienne ?
Peu. Actuellement, tout le monde est branché sur les élections du 28 novembre. Et effectivement, on a plus l'impression de soucis électoraux. On voit d'énormes panneaux publicitaires en ville qui présentent une vingtaine de candidats. Mais il n'y a pas de panneau pour dire « venez à tel endroit, il y aura une distribution de chlore, venez à tel endroit ». On va mettre en place ensemble un projet de reconstruction.
Pourtant, vous êtes là. Il y a des dizaines d'associations. On dit 60 pays se sont mobilisés, beaucoup d'argent. Rien ne bouge.
Alors, une précision quand même en ce qui concerne l'argent. Quand un pays comme la France ou les États-Unis disent on va donner 100 millions, pour faire un chiffre rond, de dollars ou 100 millions d'euros, il faut savoir qu'à peu près la moitié de cette somme est considérée comme un remboursement d'une dette. Oh, voilà, on vous fait cadeau d'une partie de la dette, mais ça ne fait pas 1 euro de plus pour la reconstruction. Ensuite, on dit, pour débloquer une autre partie, on veut être sûr que des entreprises de notre pays, et les Américains en Irak ont fait exactement ça, et on voit les résultats que ça a donné, puissent eux aussi gagner de l'argent sur ce travail. Et enfin, parmi les 15 ou 20% d'argent annoncé qui arrive, effectivement, on ne sait pas bien comment c'est utilisé. Le choléra, bien sûr, c'est épouvantable parce que c'est une épidémie. Et à partir du moment où l'eau de l'Artibonite se répand sur la capitale, ça veut dire que des gens vont être touchés par le choléra. Donc l'urgence, et des associations, y compris ATD Quart Monde, le font, c'est de distribuer du chlore, c'est de vacciner. Nous, on a un partenariat avec la clinique Saint-Michel pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à tous les soins, et pas seulement le choléra, mais il y a de nombreuses maladies. À la clinique Saint-Michel, chaque jour, il y a entre 100 et 200 personnes qui font la queue et qui attendent des soins, qui attendent des vaccinations.
Mais qui ont attendu depuis longtemps aussi.
Qui a attendu depuis longtemps. Et c'est vrai que la situation d'Haïti était catastrophique, même avant le tremblement de terre. Alors,
structure médicale, donc, pas vraiment améliorée. L'argent n'est pas allé là, d'après ce que vous dites.
Peu d'argent arrive dans la structure médicale, peu d'argent arrive dans les projets de reconstruction. Bill Clinton, qui est co-président avec le premier ministre d'Haïti, a fait une conférence de presse il y a 15 jours en disant « Vous savez, les besoins sont immenses, alors il faudra être patient. » Mais quand les banques sont en difficulté, on ne dit pas « Il faudra être patient. » On trouve tout de suite des millions d'euros, des millions de dollars pour les renflouer.
Quand les Haïtiens vous parlent justement du reste du monde, quel est leur regard aujourd'hui sur nous ?
Les Haïtiens ne sont pas envieux. Ils ont une capacité de résilience, d'acceptation, de sérénité qui est vraiment impressionnante. Par contre, ils se rendent compte que des moyens existent et qu'on devrait les aider davantage.
Et quand on a 15, 16, 17 ans, est-ce qu'on est en colère tout de même ? Plus que les parents ou les tout-petits?
Oui, il y a une demande, mais cette colère, elle se transforme en dynamisme pour la plupart. Nous, on a aidé à faire un chantier, un combit, comme on dit là-bas, pour débarrasser les gravats d'une maison. Bon, il fallait absolument avancer. Il y a eu 120 personnes qui sont venues. Et alors, pourquoi ? Réflexe de solidarité, bien sûr. Et puis, ils savaient aussi qu'il y aurait un repas à la fin de... après les 7 heures de travail.
Mais là, vous parlez d'une maison alors qu'il y a des milliers de maisons qui ont été détruites.
Mais absolument, tout est à reprendre, tout est à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, le message que je lance, c'est que si nous, entre guillemets les riches, on ne sait pas partager, le monde est foutu. Pas seulement les Haïtiens, mais nous aussi.
Quand on dit, on voit les chiffres, 1 million de personnes, 1 200 000 personnes dans la rue, voilà, c'est un chiffre, on voit des images. Vous êtes allé sur place, qu'est-ce que ça veut dire ?
1 million de personnes, ça veut dire des gens côte à côte, dans des bâches, sous des bâches, dans des tentes, qui cherchent à trouver un coin sec, qui cherchent à trouver une réserve d'eau, qui cherchent à faire des petits boulots pour gagner de quoi manger au moins une fois par jour. Mais ça veut dire des gens ouverts, disponibles, prêts à tout s'il y a un travail à faire, y compris gratuit. Des jeunes qui sont désespérés m'ont dit, après une discussion sur les Champs de Mars, « Merci d'avoir pris du temps avec nous. Merci d'avoir discuté avec nous. » On ne leur a pas donné d'argent. On a un peu parlé avec eux.
Le Champ de Mars, c'est au centre de Port-au-Prince. C'est au centre de Port-au-Prince. Il y a toujours des tentes.
Il y a des tas de tentes qui sont là, tout près des grands hôtels. Et nous, les Blancs, on est des riches. Moi, j'étais culpabilisé un peu d'avoir un bel appareil photo qui représenterait combien de repas.
Si vous êtes là, vous, à TD Quart Monde, depuis plus de 30 ans.
Oui, mais justement, les gens eux-mêmes me disent « Mais non, ton appareil photo, il nous apporterait peut-être quelques repas, mais après, la situation ne changerait pas. » Alors qu'avec tes photos, avec ton témoignage, avec l'accompagnement que fait ATD Quart Monde avec nous, c'est beaucoup plus que quelques repas.
On vous sent tout de même assez, je ne vais pas dire confiant, mais voilà, vous ne mettez pas en avant trop la colère, le risque de débordement, parce que ce pays pourrait se révolter aussi, d'une certaine manière.
C'est sûr, mais est-ce leur foi en Dieu ? Est-ce leur foi en l'homme ? Toujours est-il que les Haïtiens ont chevillé au cœur une espérance Et tous les matins, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour gagner quelques sous, mais aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour tenir le coup et aider d'autres à tenir le coup.
Quand on leur parle, vous avez parlé des affiches notamment de l'élection présidentielle, ça veut dire quoi pour eux?
Il faut reconnaître que ça ne veut pas dire grand-chose. Et ils ont l'impression que de bons candidats ne feront pas forcément de bons élus. Parce que l'expérience leur prouve que très souvent, quelqu'un qui a dit de belles choses ne les met pas en pratique. Et ça, ce n'est pas seulement en Haïti.
Sauf que là-bas, ça a tourné parfois à la catastrophe, carrément.
Oui, alors on peut craindre toujours que des jeunes désespérés, entre 20 et 30 ans, à l'âge où on dit « mais tu es adulte, tu devrais assurer la pérennité de ta famille », le désespoir peut mener à des actions violentes.
Espérance de vie en Haïti ?
À 50, 55 ans en moyenne.
Donc à 30 ans, il faut faire vite.
Oui, bien sûr.
Quand ils voient ou ils imaginent leur place là, sur la carte du monde, notamment dans l'hémisphère nord, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, comment les Haïtiens se voient au milieu de tous ces pays ?
Ce qu'ils ressentent, et nous à TD Carmonde avec eux, c'est que c'est du gâchis de ne pas s'appuyer sur l'intelligence pratique, sur la conviction, sur l'énergie des peuples, y compris des plus pauvres. Qui mieux qu'eux savent comment il faut faire pour se débrouiller chaque jour. Donc c'est du gâchis de ne pas s'appuyer sur cette expérience. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre le paquet en lien avec eux. Il ne faut pas décider pour eux, mais en lien avec eux, autour de la table, il faut voir comment on peut investir dans l'école, comment on peut investir dans la construction.
Ce n'est pas trop tard. 9 mois ont été perdus tout de même, si on vous entend bien. Depuis dans un monde idéal, 9 mois après, tout n'aurait pas été réglé, mais des choses auraient été engagées. On a l'impression que peu de choses ont été faites.
Mais peu de choses ont été faites. Mais par exemple, beaucoup vous parleront de Cash for Work. Les États-Unis, l'ONU ont mis pas mal d'argent pour de l'argent contre du travail. Mais il y a deux vices dans cette opération Cash for Work. Le premier, c'est qu'il y a des profiteurs, des chefs de quartier, entre guillemets, qui imposent la moitié de l'argent pour inscrire sur la liste des gens qui voudraient bien travailler, ou qui imposent à des jeunes femmes ou à des jeunes filles des relations sexuelles pour qu'elles aient droit à ce travail. La deuxième ambiguïté, c'est qu'à partir du moment où ce travail pour essayer de ramasser petit à petit à une cinquantaine dans une rue des gravats, eh bien, ça met dans l'idée que tout travail, même de balayer sa rue, mérite salaire. Donc certains ne font plus rien s'ils ne sont pas inscrits sur le Cash for Work. Et tout ça, c'est parce que cette opération a été conçue de l'extérieur, dans des bureaux américains notamment, mais pas en lien avec la population. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours... c'est Gandhi qui a dit « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Il faut faire avec ».